Bonsoir, deux thèmes sont au menu de la tribune de la presse de ce vendredi 20 septembre 2019, à savoir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à Bruxelles, depuis lundi 16 septembre 2019, en fin d'après-midi, en compagnie de son épouse Denise Nyakeru. Pour un séjour officiel de 4 jours, le chef de l'État congolais a rencontré plusieurs autorités belges, notamment le Premier ministre Charles Michel et le roi Philippe. Le deuxième thème de ce soir, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, demande aux gouverneurs des provinces d'uniformiser les structures de leur gouvernement. Il a dit dans un message officiel daté du 12 septembre dernier, adressé à tous les gouverneurs des provinces. Il s'agit notamment de supprimer les fonctions des commissaires provinciaux. Gilbert Kyankondé rappelle que cette fonction non réglementaire n'est pas prévue par la Constitution. Il invite par ailleurs tous les gouverneurs à réaménager leurs équipes gouvernementales respectives. Trois confrères journalistes participent à cette émission. Baudouin Saïlé, journaliste et éditeur du journal La Chopo, journal paraissant à Kinshasa. Baudouin Saïlé, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir madame.
Joachim Diana, éditeur du journal La Colombe, paraissant aussi à Kinshasa. Bonsoir Joachim Diana.
Bonsoir madame.
Et Colette Saliba, rédactrice en chef à Mama Radio, une radio communautaire qui émet depuis Bukavu dans la province du Sud Kivu. Colette Saliba, bonsoir.
Bonsoir Kelly, bonsoir aussi à tous les confrères qui participent à l'émission.
Merci de nous suivre à Bukavu dans la province du Sud Kivu sous la 95.3 et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission. Avant d'aborder nos deux sujets de ce soir, jetons un coup d'œil dans les colonnes des journaux quinois pour voir comment la presse écrite et les médias en ligne ont commenté les sujets retenus pour vous ce soir. La revue de presse avec vous, Donna Madimba.
Le voyage de travail du président Félix Tshisekedi en Belgique. Cette semaine, la découverte de nombreux fictifs à la fonction publique et la signature du code de bonne conduite par le nouveau gouvernement de la RDC sont les sujets qui ont fortement retenu l'attention des médias cette semaine qui s'achève. Dès l'annonce du voyage de Félix Tshisekedi en Belgique, Mediacongo.net rapportait la réaction du principal candidat malheureux de la présidentielle de 2018 en RDC. Citant Martin Fayoulou, le média rapportait que pour l'ancien député, le séjour à Bruxelles du président de la République est une manière pour la Belgique de cautionner le fruit de l'escroquerie électorale. Parlant des relations belgo-congolaises, le Phare écrivait de son côté que Bruxelles joue un double jeu. Au sujet de son programme, le Phare notait que le président congolais a prévu rencontrer plusieurs autorités belges, notamment le Premier ministre Charles Michel, le roi Philippe, Didier Reynders et Alexandre De Croo. Pour actualité.cd, il va tenter d'améliorer les rapports avec l'ancienne puissance coloniale et inciter les opérateurs économiques belges à revenir en RDC. Une fois sa visite entamée, 7 sur 7.cd écrivait que Félix Tshisekedi a plaidé pour un assouplissement des sanctions imposées aux proches de Joseph Kabila par les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne, argumentant que la situation politique de la RDC a évolué. Au terme d'une séance de travail avec le Premier ministre belge Charles Michel, écrivait Forum des As, le chef de l'État congolais a signé 3 mémorandums de coopération entre la RDC et la Belgique. Belgique-RDC, les protocoles d'accord signés, la coopération bilatérale renouée, notée la prospérité pour évoquer la même actualité, ajoutant qu'il est temps de tourner la page pour faire avancer les choses sur le plan diplomatique et économique. Pendant que Actualité 30.info relayait que en marge de cette visite, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a annoncé la création prochaine d'une agence de lutte contre la corruption, annonce faite devant une centaine d'entreprises de la Fédération des entreprises de Belgique. Au sujet du nouveau code de conduite du gouvernement Ilunga, le Phare écrivait, citant le Premier ministre, que les membres du gouvernement sont interdits d'exercer les actes incompatibles avec leurs fonctions, notamment l'exercice d'activités commerciales. Et à la prospérité de piquer, un État sans éthique est un corps sans vie. Au sujet des fonctionnaires fictifs découverts cette semaine enfin, la prospérité parle de plus de 5000 comptes bancaires régulièrement alimentés en salaire par l'État et qui n'appartiennent à personne. Et à actualité.cd d'ajouter, il y a plus de 10 000 agents non identifiés a élagué du fichier de paye de la fonction publique. Il s'agit là du résultat de 4 jours de travaux de l'atelier tenu à Kinshasa sur le cas des agents dits non identifiés par les banques commerciales qui s'occupent de la paye des fonctionnaires de l'État, avait détaillé le portail.
Merci Dona Madimba pour cette revue de presse. Baudouin Saïlé, y a-t-il une actualité qui a attiré votre attention cette semaine, hormis les deux sujets que nous avons retenus pour les débats de ce soir?
J'ai plutôt une préoccupation à Kisangani chez moi, celle de la réhabilitation du nouveau maire de la ville, M. Jean-Louis. La fois passée, j'avais dit qu'il avait été suspendu, alors qu'il était réhabilité 2 jours avant notre émission. Deuxième préoccupation, je demanderai à mon frère Loutangi, il paraît qu'il existe un Togolais ou un Malien qui vit à Kisangani et qui veut usurper le pouvoir à Kisangani, au sein de la fondation Mobutu. Alors je demanderai à mon frère de se taire, parce que M. Lotoyano, qui est le directeur général de la fondation depuis plusieurs années, et qui garde le patrimoine de la fondation Mobutu, est là, et il est directement concerné par le ministère des Affaires sociales. Donc je demanderai à mon frère Loutangi, s'il est malien ou togolais, de mère congolaise, qu'il se calme. Chez nous, on ne chasse pas les gens, mais il faudrait respecter les structures de l'État. Alors, en ce qui concerne l'actualité, on va parler du problème du placement du président de la République à Bruxelles. S'il y a un mot à dire, on va dire un mot.
Joachim Zena, éditeur du journal La Colombe, paraissant à Kinshasa. Une actualité qui vous a intéressé particulièrement cette semaine, Joachim Zena?
Oui, l'actualité en tant que parent qui nous a tenus en haleine, c'est la gratuité de l'enseignement. Et je constate curieusement que pendant que dans l'opinion, ça continue à chauffer, mais le gouvernement croit avoir fait l'essentiel en annonçant la gratuité. Il y a pourtant beaucoup de choses à faire pour que cette gratuité soit effective. Au cas contraire, nous allons connaître une année scolaire très troublée.
Colette Salima, vous intervenez depuis Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Qu'est-ce qui a fait l'actualité cette semaine dans votre province?
En fait, l'actualité dans la province, il y a cette situation des fonctionnaires de l'État, particulièrement les nouvelles unités qui continuent jusque-là, se poser beaucoup de questions par rapport à leur salaire. Nombreux se demandent s'ils pourront percevoir leur salaire sans problème au vu de tous les problèmes que rencontrent les agents de l'État, etc. Mais il y a aussi cette visite du chef de l'État en Belgique qui a vraiment constitué la une de plusieurs médias au niveau de la province.
Merci Colette Salima. Premier thème de ce soir, le président de la République démocratique du Congo a entamé mardi 17 septembre sa visite officielle qui concrétise le réchauffement des relations entre la RDC et la Belgique. Au cours de son séjour, plusieurs accords de coopération bilatérale ont été signés entre la RDC et la Belgique. Le point avec vous, Jean-Pierre Elali.
Selon la RTBF, une réunion gouvernementale a réuni les principaux membres du gouvernement fédéral, dont Charles Michel et Didier Randers, ainsi que le vice-premier ministre et ministre de la Coopération et Développement, Alexander De Croo. Elle s'est conclue par la signature de 4 mémorandums d'entente et lettres d'intention. Ces documents portaient notamment sur la réouverture du consulat belge à Lubumbashi et du consulat congolais à Anvers, fermé par Kinshasa au plus fort de la crise diplomatique entre les deux pays, la reprise progressive de la coopération au développement par la définition d'un programme transitoire après la suspension des activités de l'agence belge Enabel en RDC et enfin une possible reprise de la coopération militaire entre les deux pays interrompue par le régime Kabila en avril 2017. Par ailleurs, Alexander De Croo et Marie Ntumbanzeza, ministre des Affaires étrangères de la RDC, ont signé le mémorandum d'entente de la relance de la coopération au développement entre les deux pays. Un autre mémorandum a été signé entre les ministères des Finances.
Merci Jean-Pierre Elali. Joachim Diana, je rappelle que vous êtes éditeur du journal La Colombe, paraissant à Kinshasa. Quelle lecture vous faites de cette visite du président Félix Tshisekedi en Belgique?
La visite du président de la République en Belgique est une visite normale, j'estime, parce qu'en fait, il venait de prendre possession du pouvoir et il a besoin d'aller à travers le monde. Il a commencé en Afrique, qu'aujourd'hui qu'il va en Europe, il commence par la Belgique qui est notre ancienne métropole, c'est tout à fait normal. Mais cette visite, on a fait importante parce que il y a eu rupture des relations, pratiquement de la coopération entre la Belgique et la RDC. Et aujourd'hui, tel on reprend cette coopération, c'est comme si la Belgique n'avait rien fait. C'était la faute, c'était des caprices de Kinshasa. Et maintenant qu'il y a le nouveau dirigeant à Kinshasa qui n'ont pas de caprices, et on reprend. Donc, c'est le fameux mariage du cavalier et du cheval. Donc,
vous auriez souhaité que cette coopération ne reprenne pas?
Non, mais qu'on mette...
Ou qu'il y ait des conditions avant la reprise de la coopération entre la RDC et la Belgique.
Il y a eu bruit. Dans ce bruit, il y a eu un problème, un vrai problème. C'est-à-dire, il y a une plaie qu'on veut cicatriser. Mais il faut la nettoyer. Pour la nettoyer, on doit savoir, la Belgique ne doit pas se comporter comme si elle n'a... Ce n'était rien de sa part, c'est Kinshasa qui est responsable, c'est Kinshasa qui a tout fait et qui a rompu la coopération par caprice. Et puisque la Belgique est dans cette position-là, elle va reprendre les mêmes causes produisant les mêmes effets. Parce que n'oubliez pas qu'aujourd'hui, Félix, comme le chouchou, c'était la même chose avec Kabila au départ quand il prend le pouvoir en 2000. Vous avez vu Louis Michel tout le temps ici, ainsi de suite. Mais après, lorsque le gouvernement congolais a constaté que la Belgique n'était pas dans les bonnes dispositions de se comporter comme un partenaire à part égale. C'est comme si c'était un père fouettard, comme c'était le papa qui donne des ordres à son fils. Et à ce moment-là, aucun dirigeant d'un pays souverain ne peut l'accepter. Et cela a amené jusqu'à la rupture de la coopération actuelle. Félix ne doit pas comprendre comme si les gens qui étaient ici étaient capricieux, tout se passait pour le mieux, la Belgique c'est le saint.
Donc si je comprends bien pour vous, Diana, c'est la Belgique qui était à la base de cette rupture.
Mais il y a eu des problèmes. Sinon Kinshasa n'aurait pas demander à mettre fin à la coopération militaire. Il y a eu de vrais problèmes. Pour mettre la coopération, fermer la maison Schengen. Mais il y a eu de vrais problèmes. Alors, on devrait se mettre d'abord autour d'une table, voir ce problème. Ça vient d'où? On élague le problème qui nous a fait bruire. Au cas contraire, sinon vous allez vous rendre compte.
Vous pensez que les deux pays ne se sont pas mis autour d'une table pour en parler?
Non, aucune table. Nous sommes des journalistes. Nous n'avons pas suivi ça. Vous savez que sous Mobutu, c'était la même chose. Sous M. Laurent Désiré Kabila, c'était la même chose. Sous Joseph Kabila, c'était la même chose. Toujours avec la même Belgique. Vous croyez toujours que ce sont des Congolais qui sont des capricieux, qui ne savent pas bien se comporter. La Belgique doit aussi faire une introspection et se décider à changer. Et le premier changement qu'on lui demande, c'est de considérer le Congo comme un pays souverain. Et ce n'est pas son protectorat.
Baudouin Saïd est journaliste et éditeur du journal La Tchopo, un journal paraissant à Kinshasa. Première visite du chef de l'État congolais en Europe, il la commence par la Belgique. Pourquoi, selon vous, ce choix de la Belgique?
Madame, je vous remercie pour la question. Moi, en tant que journaliste professionnel, je réfléchis. La voyage du chef, une bonne affaire. Mais je me dis ceci. Pourquoi, depuis le discours de Lumumba, le 30 juin 1960, jusqu'à aujourd'hui, à peine 59 ans, vous comprenez? Alors, comme Lumumba n'a pas été programmé ce jour-là pour tenir un discours pareil devant le roi des Belges et devant la présidente publique, et la rancœur résiste jusqu'à aujourd'hui. Si vous regardez les images de ce jour-là, vous allez voir le roi Baudouin s'incliner vers le président Kassavubu pour poser des questions, entre autres, mais pourquoi ce discours comme ça? Donc les Belges sont restés rancuniers à cause du discours de Lumumba et on nous punit jusqu'à aujourd'hui? Non, madame. Franchement, nous disons ceci, que le voyage du chef de l'État à Bruxelles, c'est une bonne chose, c'est vrai. Il vient à peine d'arriver au pouvoir, il doit toquer dans des grandes portes, c'est vrai. Mais et que la Belgique nous considère comme des messieurs. Nous sommes des gens indépendants, ça fait presque 60 ans l'année prochaine. Que les Belges sont là en train de nous regarder dans les souffrances au lieu de venir à la rescousse des Congolais. Ebola, les Belges font quoi? Ils ont des usines, ils ont de ceci, de cela, ils ne viennent pas à la rescousse des Congolais. Mais la MONUSCO est ici, ça fait 20 ans. Est-ce que la Belgique est au fond pour nous aider? La Belgique a géré ce pays pendant plus de 80 ans, etc. Mais ça n'a pas suffi. Mais l'indépendance a été donnée de contre-cœur.
Plusieurs accords viennent d'être signés entre la RDC et la Belgique. Peut-être qu'il y aura un changement du côté de la Belgique.
Madame, soyons toujours vigilants, parce que le contentieux belgo-congolais résiste toujours. Les Belges n'ont pas été tendres vis-à-vis des Mobutu. Les Belges n'ont pas compris la coopération avec le Musée Kabila. Les Belges ont créé des problèmes avec Joseph Kabila. Aujourd'hui, comme le nouveau chef est arrivé, et tout le monde court vers Tshisekedi. Avec quel dossier. Tout est juteux. Et après quelques temps, on va créer encore des problèmes pour ne retomber dans l'erreur. Je crois que les Belges sont des gens. J'espère que les Belges sont des gens intelligents, politiques, mais que cette fois-ci, ça soit la bonne, que la coopération entre la Belgique et la RDC soit profitable pour tous. Voilà, madame.
Et vous pensez que la Belgique ne respecte pas la RDC?
Madame, ça fait 60 ans que nous sommes ensemble avec la Belgique. Nous sommes nés, moi et Dieu, nous sommes nés avant l'indépendance. Mais nous savons ce que veut la Belgique en RDC Congo.
Donc il faut rien attendre de cette visite.
La Belgique veut toujours trop gagner et nous des miettes. Non, nous disons que nous sommes un pays souverain. Mais c'est vrai, ces jours-là, on a proclamé l'État congolais comme étant indépendant du Congo. Ça a été, je ne sais pas, un jeu d'enfant ou bien c'était la vérité des faits. Non, madame, nous disons à la Belgique, cette fois-ci, soyez sincères, soyez vrais et respectez les Congolais, tout simplement, madame.
Colette Salima, rédactrice en chef à Mama Radio, une radio communautaire qui met depuis Bukavu dans la province du Sud Kivu. Colette Salima, qu'est-ce qui se raconte à Bukavu sur cette visite du chef de l'État en Belgique?
Merci beaucoup, Kelly. Il faut dire qu'à Bukavu, on trouve normal qu'un chef de l'État se déplace. Tshisekedi se déplace depuis qu'il est à la tête de la RDC. Il est en train de faire des contacts par ici, par là, rencontrer ses homologues pour essayer d'échanger par rapport à la situation du pays et voir comment nouer de nouvelles relations pour le bien de la RDC. Donc, c'est vraiment normal. Les gens pensent que c'est normal pour lui de se rendre en Belgique, encore qu'il a vécu en Belgique pendant un temps et que, la Belgique, c'est un pays qui a joué un grand rôle, un pays historique pour la RDC, pas de plus normal pour lui pour qu'il se rende là-bas. Mais ce qui a encore beaucoup plus touché la communauté, c'est par rapport à ce qu'il est allé faire, par rapport à sa mission, ses objectifs. Lorsque Tshisekedi se déplace pour renouer les liens avec la Belgique, la communauté pense que c'est une bonne chose. Personnellement, je pense également que c'est une bonne chose parce qu'il essaie un peu de décrypter la tension, la situation qu'il y avait entre la RDC et la Belgique, et aujourd'hui, je crois qu'il va le tenir. Mais comme le disait le confrère Joachim, en lisant tout ce qu'il y a en suivant les différents médias, aucun média ne nous montre jusqu'à présent quel est exactement le nœud du problème entre la Belgique et la RDC. On ne nous montre que la part de la RDC, par exemple, tout ce que la RDC a fait, on a fermé l'ambassade, l'espace Schengen, etc. Mais on ne sait jusque-là fermé. Quel est le vrai problème qui a conduit la RDC à prendre ses décisions face à la Belgique? Je crois qu'il était plus que temps aussi que la communauté soit informée par rapport à ça. Mais sinon, le voyage lui-même, il est bon parce qu'il est en train de nouer, il resterait encore une fois les liens. On voudrait avoir des investisseurs, on voudrait voir la Belgique encore une fois intervenir au niveau de la RDC. Mais il y a des sérieux problèmes par rapport à ça. Il y a beaucoup de problèmes qui exigent que les choses soient mises clairement sur la table pour que ça soit un peu, si ce lien soit encore une fois retiré, que ça soit partie gagnant-gagnant entre la Belgique et la RDC, à mon avis.
Plusieurs accords de coopération bilatérale ont été signés entre la RDC et la Belgique. On a suivi nos deux confrères, Joachim Diana et Baudouin Saïlé, qui ne croient pas trop en la sincérité de la Belgique. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y aura des retombées positives après cette visite officielle du président Félix Tshisekedi en Belgique?
Bon, mais moi, je pense que ça dépend du sérieux que les deux parties vont mettre dans cette activité qui est allée réaliser là-bas. Ça dépend du sérieux. Si tout ce qu'il est allé faire est bien clair, je pense que ça sera profitable au peuple congolais. s'il a eu un entretien, comme il a eu un entretien avec, avec les entrepreneurs belges, il voudrait qu'on relance un peu cet aspect au niveau de la crise. S'il met du sérieux, ça sera profitable pour le peuple congolais. Mais il y a également des doutes autour de ça. Moi, quand je vois, par exemple, avec les sanctions de la Commission européenne face à certaines autorités congolaises, je me demande comment ça va se passer, parce que Félix Tshisekedi a demandé aujourd'hui qu'on puisse un peu alléger la sanction qui leur a été infligée, alors que nous savons que ce qu'ils ont fait comme bavure était très 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 grave, et toute la communauté congolaise a les yeux braqués parce qu'ils attendent de voir ce qui va suivre après. S'ils demandent qu'on essaie un peu d'alléger les sanctions alors que nous savons qu'ils ont commis quelque chose de très grave, je me demande comment ça va se passer, parce que ces sanctions, toutes ces autorités ont travaillé avec l'ex-président Joseph Kabila, qui aujourd'hui d'ailleurs est en train de coalise d'ailleurs avec le chef de l'État Félix Tshisekedi. Je me demande, est-ce que ce n'est pas... C'est pas une mascarade, où j'ai l'impression qu'on est en train de tromper un tout petit peu la population, quoi.
Joachim Diana, parlons justement de cette demande du président Félix Tshisekedi d'alléger les sanctions qui pèsent sur certaines autorités ou personnalités congolaises. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, la première question que je me pose, c'est celle de savoir si le gouvernement congolais peut aussi, dans le cadre de la responsabilité de l'égalité, conformément à la charte de l'ONU, de l'égalité des États, si la RDC peut aussi prendre des sanctions contre les dirigeants belges. Je me pose la question des dirigeants belges qui se comporteraient de telle manière dans la politique belge, si le Congo peut aussi prendre des sanctions. Sur ce point-là, déjà, je me dis, je ne pourrais même pas aller me mettre à plaider, alléger ces sanctions et tout ça. Je ne peux même pas. Moi, tout ce que je ferais, c'est de les ignorer et peut-être aussi laisser ces gens-là mourir avec sanctions comme Mandela est mort avec ces fameuses sanctions des Américains qui ne lui ont rien fait. C'est ça qui montre justement que la Belgique se considère comme le père. Donc quand un enfant est en faute, il le punit. Mais l'enfant ne punira jamais papa. C'est inacceptable cela. Et lorsque vous voyez même tout ce qu'il nous propose comme coopération, tout ça, mais qu'est-ce qui n'a jamais été fait au Congo? Qu'est-ce qu'ils n'ont jamais fait? Moi j'ai été avec Hirodia pendant la transition, toute la journée recevoir les opérateurs économiques belges pendant toute la journée à Liège.
Peut-être qu'avec le nouveau président, les choses vont se passer autrement.
Mais qu'est-ce qu'ils nous avaient dit? Est-ce qu'ils font leur coopération avec des individus ou bien avec la République démocratique du Congo? C'est là aussi le côté belge. Ils viennent coopérer avec Tshisekedi qui devient propriétaire du Congo, ou bien ils viennent diriger avec le Congo et le peuple congolais. Donc c'est là le problème. Donc ils viennent, à un moment, ils ont porté Mobutu au pouvoir. La même chose, ils l'ont choyé, tout ça. L'ont même aidé à se radicaliser. La dictature de Mobutu, pour eux, à Belgique, c'était la stabilité politique. Il avait suffi qu'il y ait la glasnost, la perestroïka, pour que Mobutu devienne un dictateur. Et lorsque Joseph Kabila prend le pouvoir, vous avez vu comment ils ont cherché à les porter sur les épaules, pourvu qu'il accepte l'adage de chez nous qui dit que celui qu'on porte ne ramasse rien, que la Belgique soit notre commissionnaire, c'est elle, ben nous sommes sur ses épaules, c'est elle qui fait pour nous, qui ramasse, même ce que nous voyons, c'est lui qui ramasse parce que nous on ne peut pas descendre de ses épaules. Alors je pense que là, si c'est cela, si c'est cette police qui doit continuer, ils vont individualiser Félix pour faire leurs affaires avec Félix et pas avec le Congo, la personne n'acceptera ça au Congo.
Baudouin Saïlé, la visite du président Félix Tshisekedi en Belgique s'est achevée hier jeudi. Deux protocoles d'entente ont été signés entre la RDC et la Belgique en Anvers. L'un des deux protocoles d'entente porte sur la coopération entre le port maritime de Matadi et celui d'Anvers, et l'autre concerne la promotion de l'industrie diamantaire congolaise. Que peut concrètement apporter cet accord économique à la RDC, selon vous?
Moi, j'attends. J'ai appris que M. Yala, il est le directeur général intérimaire de l'Electronatra. Il fait partie de la délégation du président de la République à Bruxelles. J'attends son retour. Parce que Patrick y a eu des signatures de contrats là-bas, tout. J'attends son retour pour que je voie du concret. L'Electronatra est en train de souffrir. Les travailleurs ont aujourd'hui presque 52 mois d'impayement. Je crois qu'avec cette signature-là, l'Onatra aura l'outil de travail. Les bateaux quitteraient Kinshasa, les bateaux courriers quitteraient Kinshasa pour aller jusqu'à Kisangani, passer par Mbana, Kalisala, Bumba, etc. J'attends du concret, madame. Le peuple ici attend du concret. Le peuple en a de souffrir. Que la Belgique nous vienne réellement en aide, si elle veut venir en aide. Que la Belgique fasse un peu de table rase des 50 ans de cohabitation à dents de scie. Que la Belgique essaie d'assister de plus que l'ONATRA. En donnant l'ONATRA le train nouveau. Là-bas, on fabrique des trains, non? En donnant l'ONATRA de nouvelles pièces de restaurant pour les bateaux. Qu'on fasse. Le peuple veut du concret, il ne veut pas du verbiage. Voilà, madame.
Colette Salima, en RDC, cette visite du chef de l'État n'est pas bien vue par une frange de l'opposition. Le cas de Martin Fayulu, qui estime que le séjour de Félix Tshisekedi à Bruxelles est une manière pour la Belgique de cautionner le fruit de l'escroquerie électorale. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, ça c'est le point de vue de Martin Fayulu, j'ai suivi. Pour Martin Fayulu, Tshisekedi n'a jamais gagné les élections et que la visite de Tshisekedi en Belgique, voir la manière dont il a été accueilli, ça signifie que la Belgique accepte que les élections ont été truquées, etc. Mais je crois qu'il est Fayulu devait comprendre également que Tshisekedi qui est là pour le moment et que bien que lui il pense qu'il n'a pas gagné l'élection, Tshisekedi doit faire quand même des contacts pour le bénéfice de la RDC. C'est qu'il est en train de justement parce qu'il n'y a pas que la Belgique qui s'est rendu également dans d'autres pays. En tant que président actuel, je crois qu'il ne peut que faire ce genre de contacts pour voir si cela peut apporter un plus à la RDC, bien qu'il y a une frange de la population qui continue à refuser qu'il n'a pas mérité ces élections.
Merci Colette Salima. Deuxième et dernier terme de ce soir, c'est la première mesure prise par le nouveau patron de la territoriale dans un message officiel adressé au gouverneur des provinces, Gilbert Kyankondé, vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, insiste sur l'uniformisation des structures provinciales. Il rappelle qu'un gouvernement provincial ne peut pas dépasser 10 ministres pour le ministre de l'Intérieur. Commissaire provincial est une fonction superfétatoire et non réglementaire. Il exige donc sa suppression. Dona Madimba nous en dit plus.
Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur dit s'appuyer sur l'article 198 de la Constitution qui, selon lui, ne fait aucunement mention des fonctions de commissaires provinciaux, mais mentionne bien les fonctions de gouverneur, vice-gouverneur et 10 ministres provinciaux. Gilbert Kyankondé explique qu'au Congo central, par exemple, deux femmes assument ces postes non réglementaires appelés commissaires généraux. Ils sont créés, selon le ministre de l'Intérieur, par les gouverneurs sous diverses pressions qu'ils subissent pour contenter les demandeurs qui sont nombreux. Tous les gouverneurs provinciaux doivent être uniformisés, insiste Gilbert Kyankondé dans son communiqué du 12 septembre, et par conséquent, conclut le ministre, les gouverneurs doivent réaménager leur gouvernement respectif.
Baudouin Saïlé, vous êtes journaliste éditeur du journal La Tchopo, journal paraissant à Kinshasa. Comment vous analysez cette décision du ministre de l'Intérieur?
Madame, merci beaucoup. Je ne comprends pas que à peine installé, à peine il y a des problèmes. À peine le gouverneur, le vice-gouverneur de Nekongo installé, à peine qu'il y a des problèmes. Mais d'où vient cette appellation de commissaires généraux, commissaires provinciaux? D'où vient? Parce que la fois passée, il y avait un gouverneur provincial, par exemple à Kisangani, il y avait un gouvernement provincial de la Tchopo, composé d'un gouverneur provincial, d'un vice-gouverneur provincial, des ministres provinciaux. Alors, les gens, lorsqu'ils dorment, ils créent des histoires pour qu'ils deviennent des vedettes. Ou bien on respecte la loi, madame, ou bien on fait la rébellion. On doit suivre les institutions qui viennent de la capitale, siège des institutions de la République. Comme le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur a décidé qu'on change tout en ministre provincial, qu'on le fasse le plus vite serait le bien. Nous avons beaucoup de problèmes, hein, les problèmes d'appellation, de ceci, de cela. Laissons un peu, conformons-nous à la loi en vigueur. On dit qu'il y a un ministre provincial, il y a un ministre provincial. Il n'y a pas de commissaires généraux, de commissaires provinciaux, tout, madame. Où allons-nous? Il y a des priorités. Les gens n'ont pas de courant à la maison. Les gens n'ont pas d'eau potable. Les gens n'ont pas 100 francs pour acheter le pain le matin. La voirie urbaine. Il y a trop de défis. Vous comprenez, on ne peut pas se distraire à cause de l'appellation. Le chef a dit, alors appliquons la loi.
Donc vous appuyez la décision du ministre de l'Intérieur.
Je ne peux pas comprendre que, par exemple, ici à Kinshasa, il y a des ministres provinciaux. au Congo central, il y a des commissaires généraux, à Kisangani, je ne sais pas comment, à Bukavu, tout et tout. Non, conformons-nous à la loi. Ici, il y a le vice-premier ministre qui dit ceci, respectons les paroles du chef.
Certains experts, c'est vrai, saluent cette décision du ministre de l'Intérieur. C'est normal qu'un gouvernement provincial ait 10 ministres, mais en ce qui concerne les commissaires provinciaux, ils estiment que le vice-premier ministre n'a rien à voir là-dedans, car cela relève de la libre administration des provinces.
Madame, ça s'appelle la rébellion, tout simplement. Depuis que nous sommes là, depuis qu'il y a élection en 2006, en 2011, il y a toujours eu des gouverneurs de province. Il n'a jamais eu les... Mais sauf quelque temps ici, hein, il y avait des commissaires spéciaux, tout, mais on avait balayé la structure. Mais aujourd'hui, madame, si ce genre-là veulent qu'on respecte la loi, ils doivent se conformer à la loi. Le vice-premier ministre a dit, c'est pas un dictat, c'est conformément à la loi en vigueur. Que tout le monde doit être appelé ministre et provinciaux, qui doivent travailler des concerts avec les gouverneurs de province et les gouverneurs de province. Voilà!
Joachim Diana, éditeur du journal La Colombe, paraissant à Kinshasa, qu'est-ce que vous pensez de cette mesure prise par le ministre de l'Intérieur? A-t-il raison ou tort?
Je suis d'abord étonné que cette mesure n'ait pas déclenché un tollé général de la part des fameuses zones G. Je vous l'assure que ça aurait été sous l'administration passée à cage, et qui encore a sa dose, et tout ça, serait déclencherait tout ce qu'ils ont comme arsenal pour décourager ça. Il y a, c'est vrai, la loi. Il y a la loi. Mais cette loi aussi, que le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur doit respecter, c'est cette loi sur l'autonomie des provinces. Qui dit autonomie, ce n'est pas une simple blague. Aujourd'hui, j'ai l'impression que indépendamment de l'opportunité de la mesure qu'il pourrait prendre, mais qu'il voudrait caporaliser le gouverneur de province. Ça serait très grave. Alors, on reviendrait. Alors, ça ne vaudrait même plus la peine qu'il soit élu. Vaut mieux qu'il soit nommé et proposé par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, la loi consacre l'autonomie des provinces. Ce qui veut dire quoi? Le gouverneur peut créer des structures pour permettre ça. C'est ce que vous avez vu qu'à Kinshasa, on a créé la DGRK. Vous allez au Congo central, on l'appelle la repère. Donc, il y a ainsi comme ça, chaque gouverneur crée des structures pour permettre que sa gestion soit permet, parce que c'est lui qui a le mandat.
Mais voilà. les commissaires provinciaux, ils sont dans le gouvernement provincial. Est-ce qu'ils seront rédévables devant l'Assemblée provinciale, hein?
Non. Ils ne peuvent pas être redevables devant le gouvernement provincial. Ils peuvent être une structure pour aider le gouvernement provincial pour bien fonctionner. Mais ce qui serait, je n'ai pas encore lu cette mesure, ce qui serait condamnable, c'est que, en plus de 10 ministres, qu'on ait, parce qu'il y a 10 ministres sans vice-ministre, sans quoi, qu'en plus de 10 ministres, qu'on ajoute d'autres personnes qui sont relevées comme membres du gouvernement provincial, là, à ce moment-là...
C'est ça que le ministre dénonce.
Mais c'est ça qu'il dénonce, mais il doit les dénoncer avec manière, c'est-à-dire quoi? En tenant compte de l'autonomie des provinces. Il pouvait même attendre la conférence des gouverneurs. Il pouvait même, en tout cas, utiliser d'autres manières que le caporalisme. C'est comme si aujourd'hui, pour faire voir au gouverneur que vous êtes sous ma direction et désormais vous devez suivre mon bâton magique. Là, nous allons le dénoncer aussi parce qu'il n'a pas le droit de gérer au quotidien les provinces. N'a pas le droit de les gérer au quotidien. Les provinces ont une certaine autonomie, n'empêchent cette supervision du gouvernement parce que nous n'avons pas... Les provinces ne sont pas des États indépendants, ce sont des structures de l'État central qu'est la République démocratique du Congo. Donc le ministre de l'Intérieur a un droit de regard, mais n'a pas à caporaliser ce que le gouverneur fait jusqu'à entrer dans leur petite organisation interne. Je pense que ça, non.
Colette Salima, rédactrice en chef à Mama Radio, une radio communautaire qui émet depuis Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Comment cette décision du ministre de l'Intérieur est-elle perçue à Bukavu?
Kelly, je pense que le vice-premier ministre a quelque part raison par rapport à cette décision qui consiste à supprimer les commissariats provinciaux. Et bon, je crois qu'il compte ici appuyer sur l'article 198 de la Constitution qui ne fait pas mention des fonctions des commissariats, plutôt des commissaires provinciaux. Il a raison quelque part. L'intérieur, premier en RDC, Et moi, je pense qu'on a toujours du mal à respecter certains textes du pays. Donc, cet article-là reconnaît uniquement les gouverneurs et des ministres provinciaux. Donc, gouverneur, vice-gouverneur et ministres provinciaux. Quand je vois la province du Nord-Kivu qui a 10 ministres plus 4 commissaires provinciaux, je vois aussi la province du Congo central qui a 2 commissaires provinciaux. Il y a quelques années aussi, Kivu, c'était pareil sous le règne du gouverneur Claude Nyamugabo qui avait aussi un commissariat chargé de la justice. Mais je me dis, on le voit en dehors des textes. Le sérieux problème que nous avons dans notre pays aussi, c'est que nous avons des textes mais qu'on ne sait pas suivre à la lettre. Et je crois que s'ils demandent au gouverneur de revenir dans les prescrits, ce n'est pas mauvais. Et puis, il y a une question que je me pose. Quand on doit avoir 10 ministres et que le gouverneur décide d'avoir au-delà de ces 10 ministres, quatre commissaires, y a-t-il pas lieu de combiner le travail que devrait faire, que doit plutôt faire ces commissaires dans d'autres, ministères par exemple, parce que cela a été fait toujours, que d'autres postes et que cela aura même des conséquences sur le budget du gouvernement. Le pays a beaucoup de problèmes, nos provinces ont beaucoup de problèmes qui demandent d'avoir des solutions. Mais lorsqu'on crée d'autres postes et plus de commissaires, je crois que cet argent devrait être affecté à autre chose que de le donner à d'autres personnes, des tâches qui devraient être exécutées par d'autres ministres au sein des provinces.
Le gouverneur des provinces n'est-il pas libre de nommer ses collaborateurs pour le bon fonctionnement de sa province? Au-delà des 10 ministres,
bon, il peut... Je pense qu'il est libre, mais on doit également suivre ce que disent le texte du pays. Le texte ne reconnaît pas cette fonction des commissaires. Et en tout cas, le texte ne reconnaît pas cette fonction des commissaires. Donc, il est libre de nommer qu'il veut dans son cabinet, mais je crois que ça ne sert à rien aussi de dupliquer les tâches, etc. Cela n'est pas bénéfique pour la population.
Merci Colette Salima, plutôt Baudouin Saïlé. Dans la forme actuelle de la RDC, de l'État congolais, le ministre a-t-il qualité d'annuler les actes des autorités provinciales compétentes?
Lorsqu'on accède au pouvoir, il y a des attributions de tout un chacun. Le ministre sait ce qu'il doit faire. Le gouvernement de province sait également ce qu'il va faire. Alors, lorsque vous évoluez en marge des instructions en vigueur, ça devient de la rébellion. Le ministre sait très bien que dans chaque province, il y a 10 ministres provinciaux. Alors, contentez-vous des 10 ministres provinciaux. Alors, ou alors, au niveau des conseillers du gouverneur, on peut prendre XY, mettre conseiller en chef, conseiller adjoint, pour essayer de servir la grande population qui est en train de souffrir, vous comprenez? Mais faisons l'officiel. N'allons pas à la compte de l'officiel. On sait très bien que dans une province, il y a 10 ministres provinciaux qui sont payés par les trésors publics. Et si vous commencez à ajouter d'autres membres, faites-les dans votre cabinet comme des conseillers, comme des assistants par exemple. Ça peut toujours vous aider.
Alors il ne nous reste plus beaucoup de temps. Ça sera votre conclusion, Baudouin Saïlé. Oui. La suppression des commissaires provinciaux ne risque-t-elle pas de créer une crise politique?
Oh madame, lorsque nous allons commencer par des crises politiques au niveau primaire, ça deviendra autre chose. Non, nous ne voulons presque plus les crises politiques. Nous voulons que chaque gouverneur, chaque ministre soit respectueux des vertus républicaines. Nous voulons que la République d'ici, nous laissons le 2019 qui est presque finissant. En janvier, février, mars, il faudrait que chaque province présente le travail que le gouverneur a fait. Nous voulons que la population se sente préoccupée par les décideurs politiques. Le peuple n'a pas 10 000 francs pour chaque jour, madame, je vous assure. Nous voulons que chaque... J'apprends ici, dans votre introduction, qu'il y a des fictifs qu'on a trouvés dans le chef de la fonction publique. Mais d'où viennent ces fictifs? Et quand l'argent sortait, ça allait dans quelle direction? Vous comprenez? Nous ne voulons plus de fictifs, des couloirs, des recettes, des tourneurs de fonds et tout. Nous voulons que nous ayons... Pour que nous mangions 3 fois par jour, madame. Voilà.
Merci, Baudouin Saïlé. Joachim Diana, éditeur du journal La Colombe, paraissant à Kinshasa. Dans le message du ministre, on demande aux gouverneurs d'uniformiser leur structure provinciale et aussi la nomenclature de chaque ministère. Est-ce que c'est possible?
Non. Ça, c'est vraiment ce que j'appelle du caporalisme. Dans l'organisation. Vous savez que même les ministres, Le Premier ministre leur dit, vous avez droit à 13 conseillers. Il regarde par rapport aux réalités de son ministère, il respecte 13 conseillers. Mais il peut créer des structures. Et ceux-là ne sont pas parce que le Premier ministre va payer le 13. Mais lui, il s'organise pour organiser son travail à avoir certaines structures, créer des commissions qui n'existent pas dans d'autres ministères et qui ne sont pas dans la nomenclature. Mais il en est de même de gouverneur, il peut créer les commissaires. Mais les commissaires, ils ont quel rôle? Sont-ils sur la liste des 10 membres du gouvernement qui sont payés par les trésors publics? Je ne pense pas. Mais sinon, c'est le premier à recevoir la liste qui l'aurait refusé et non pas le ministre de l'Intérieur. Donc ils sont libres de bien organiser. Mais leur demander jusqu'à uniformiser. Mais ça, c'est vraiment du caporalisme. Sinon, les provinces n'auront plus cette liberté. La province du Congo central n'est pas la province du Maïndombe. Ils n'ont pas les mêmes problèmes. La province du Maïndombe n'est pas la province du Congo. Ils n'ont pas les mêmes problèmes. Donc chacun, si on veut vraiment que la gestion soit créative, qu'on cherche réellement des solutions, on doit laisser. J'ai toujours été d'avis des gouverneurs animateurs, des gouverneurs qui créent les structures en fonction pour résoudre des problèmes. Ce n'est pas pour faire le train-train de tous les jours, ainsi de suite. Alors là, à ce moment, le ministre est en train de tuer l'esprit de la décentralisation. Et la décentralisation, ce n'est pas mécanique. La décentralisation, c'est pour que les gens s'adaptent à leur réalité et qu'ils résolvent leurs propres problèmes, qu'ils décentralisent aussi les problèmes. C'est vrai qu'il y a des problèmes commun à tous les Congolais, mais il y a des problèmes particuliers à certaines provinces. Vous allez responsabiliser, uniformiser, mais je pense que ça, c'est vraiment inacceptable. Et je pense que les gouverneurs qui vont résister, ils auront mon soutien.
Colette Saluma, rédactrice en chef à Mama Radio, une radio communautaire qui émet depuis Bukavu dans la province du Sud Kivu. Supprimer les commissaires provinciaux, du coup, les gouverneurs des provinces sont obligés de réaménager leurs gouvernements provinciaux.
Bon, Kelly, c'est vrai que le vice-premier ministre a demandé que cela soit supprimé. Je suis sûr que ça va créer des frustrations. Et ça, de certains, le gouvernement aussi a opté pour cette approche, hein, ça risque de créer des situations. Peut-être que le vice-premier ministre devait trouver un terrain d'entente, essayer de discuter avec les différents gouvernements pour échanger sur cette question et trouver un terrain d'entente que de justement donner cette décision dans les médias, etc. Mais je continue de dire que nous devons apprendre à respecter nos textes. Si on ne veut pas le signer à cette édite de texte, alors on prend une autre procédure pour que ce texte change et qu'après, le gouverneur puisse avoir cette latitude de pouvoir nommer, changer, tout ce qu'ils veulent quand ils sont gouverneurs. Mais pour le moment, moi, je m'en tiens à dire que nous devons apprendre à respecter le texte parce que c'est le sérieux problème que nous avons en RDC. On a des beaux textes, on a beaucoup de textes, mais qu'on n'arrive pas à mettre en application. Et cela, c'est très dangereux pour la communauté parce que nous signons les ratifications des textes qu'on n'arrive pas à mettre en application.
Voilà, merci. C'est ça. Merci Colette Saluma, c'est avec vous que nous mettons fin à cette émission. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée, Donna Madimba qui était à la réalisation, Willem Lungamba à la prise de son, présentation et coordination Kelly Nkouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net, bon site de programme sur la fréquence de la paix.